Et le titre de mon message ce matin, c'est « Changer vraiment, est-ce possible ?» Est-ce que c'est vraiment possible pour nous de changer? Parce que si vous êtes comme moi dans cette salle, parfois il peut y avoir des choses dans notre caractère, des failles de caractère, des faiblesses qu'on a envie que ça change, on a envie que ça bouge, mais semaine après semaine, mois après mois, parfois même année après année, on a l'impression que ça bouge pas. On aimerait que ça bouge, mais on est toujours pris avec les mêmes insécurités, avec les mêmes faiblesses, avec les mêmes anxiétés, avec les mêmes failles de caractère. Peut-être même t'es là dans ce lieu et t'es pris avec les mêmes dépendances année après année et t'as l'impression que ça bouge pas. T'as l'impression que ça ne change pas. Et parfois, face au désespoir, on peut se demander, est-ce qu'il est possible pour moi est-ce qu'un jour je vais réussir à avoir la victoire sur cette faiblesse-là? Est-ce qu'un jour je vais réussir à avoir la victoire sur cette faille de caractère, sur cette faiblesse-là? Et face à ce désespoir-là, parfois on peut juste baisser les bras et abandonner. Et puis je me souviens qu'à un moment donné, il y a quelques temps de cela, une dame est venue me voir à la fin d'une réunion à l'église parce que moi, comme vous savez, je suis pasteur à Longueuil et à la fin de chaque réunion, comme sur chacun de nos sites, on a une équipe de pasteurs et de leaders qui sont là pour prier pour les gens qui ont besoin de prière. Alors il y a une dame qui s'approche de moi à un moment donné et qui me dit « Pasteur, j'ai besoin de prière ». Je dis « Parfait, madame, c'est quoi votre sujet de prière ?» Et là, elle vient vers moi et me dit « Pasteur, moi, il faut vraiment que Dieu change mon caractère. Priez pour moi parce que je suis vraiment plus capable de moi-même. » Combien à qui c'est déjà arrivé de plus être capable de lui-même? Et je me souviens lui avoir répondu « Madame, c'est parfait. Par contre, je vais vous demander un service. Vous allez prier pour moi parce que moi-même, je ne suis plus capable de moi-même. » Peut-on changer réellement? La Bible parle beaucoup du changement. Parle beaucoup des comportements qu'on doit adopter en tant que chrétien. Les comportements qu'on doit adopter et les comportements qu'on doit arrêter. Des passages très inspirants et encourageants, un peu comme Colossiens 3, versets 5 à 8, qui nous dit ceci. « Faites donc mourir tout ce qui dans votre vie appartient à la terre. » C'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, les passions incontrôlées, les désirs mauvais et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. Ce sont de tels comportements qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Et vous-même aussi, vous commettiez ces péchés autrefois lorsqu'il faisait votre vie. Mais à présent, débarrassez-vous de tout cela. Colère, irritation, méchanceté, insultes ou propos grossiers qui sortiraient de votre bouche. Bienvenue à l'église ce matin. Ce genre de passage où tu as envie de regarder Dieu et de lui dire, ouais, plus facile à dire qu'à faire. Ce texte-là, moi, il me fait penser un peu à ma mère. Ma mère, lorsqu'on était petit, pendant l'été, on avait 2 mois de vacances, on n'avait pas d'école, pas de devoirs, et elle avait la grandiose idée de nous faire faire ce qu'on appelle des cahiers de vacances. Combien ont connu les cahiers de vacances? Les cahiers de vacances, nous, on le voyait comme un outil de torture de nos parents pour nous. C'est comme si nos parents, ils nous voyaient profiter de l'été et ils disaient « Non, il y a trop de joie dans cette maison en ce moment. Il y a trop de bonne humeur, il y a trop de joie, on va baisser le niveau, on va les faire galérer avec nous un peu. Donc, vous n'avez pas de devoirs, c'est pas grave, nous, on va vous en donner des devoirs. » Et ils nous faisaient faire des exercices de maths, de français, tout ça. Et moi, je viens d'une famille nombreuse, donc on est 6 enfants. Ce qui fait qu'on était hyper turbulents, c'était vraiment notre pire moment de la journée. Il faisait beau dehors, il y avait le soleil, tout le monde jouait au soccer, nous, on était là à faire nos cahiers de vacances. Et je me souviens qu'à un moment donné, j'avais vraiment des difficultés en mathématiques, ok? Et j'ai toujours été nul en maths, peut-être pour ça que je suis devenu pasteur. J'ai toujours été nul en maths et je me souviens que ma mère, je l'aime de tout mon cœur, ok? C'est la meilleure maman au monde, elle a énormément de qualités. Mais si Dieu lui a pas donné une qualité, c'est en fait 2 qualités, c'est la qualité de la pédagogie et de la patience. Je me souviens qu'à chaque fois, elle s'arrachait les cheveux avec nous et à un moment donné, alors que j'avais du mal en maths, elle m'a regardé et cette fois-ci, elle a su trouver les mots. Elle a su trouver les mots, juste les mots qui allaient m'inspirer, les mots qui allaient faire sortir le potentiel enfoui en moi de mathématicien. Elle m'a regardé, elle m'a crié dessus, elle m'a dit « Mais c'est facile !» Et là, j'avais envie de lui répondre « Maman, c'est normal que c'est facile pour toi, t'as 44 ans, j'en ai 10. » Mais vu que je tenais à ma vie, je l'ai juste pensé, je ne l'ai pas dit à voix haute. Mais parfois, si on est honnête, lorsqu'on regarde ce genre de passage-là, on a envie de dire à Dieu « Mais... » C'est normal, c'est facile pour toi. Toi, t'es Dieu. C'est normal, tu t'énerves pas de manière injustifiée. Tu es dans la pureté, t'es intègre. C'est normal, toi, t'es Dieu. Mais pour moi, qui est un être pécheur, un être imparfait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. C'est que Dieu est un bien meilleur pédagogue que ma mère. Est-ce que je peux entendre un amen? Et face aux commandements qu'il nous donne, il nous laisse pas juste comme ça en nous criant dessus, c'est facile. Non, non, non. Il nous donne des clés pour réellement changer de manière profonde. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va regarder un livre, au livre de Colossiens. Et ce livre-là de Colossiens, il est hyper pertinent. Il est divisé en 2 parties. Dans les 2 premiers chapitres, l'apôtre Paul, ce que l'apôtre Paul fait, c'est qu'il leur rappelle leur identité. Il leur rappelle leur identité, qui ils sont en Christ. Parce que vous savez, l'apôtre Paul n'envoyait jamais des lettres juste pour le fun, juste pour donner des nouvelles. Non, à chaque fois qu'il envoyait des lettres, c'est toujours pour corriger des comportements, parfois des croyances, parfois des comportements. Et dans ce contexte-là, il leur envoie une lettre pour corriger des croyances qui avaient un impact dans leur comportement. Ils avaient grandi pour la plupart des chrétiens de cette église-là, ils avaient grandi dans un contexte où il y avait beaucoup de polythéisme, ce qui fait qu'il y en a qui s'étaient abandonnés à Christ et Jésus était juste devenu une divinité de plus. Dans le même temps, il faisait face à une autre influence qui était le légalisme des judaïsants, des anciens juifs qui disaient « Nous, on a galéré avec la loi, avec la Torah. Vous êtes des anciens païens qui venez de vous convertir au christianisme. C'est pas vrai que vous allez juste mettre votre foi en Jésus puis expérimenter tout ce que Dieu a pour vous. Non, vous aussi, vous allez devoir faire les rituels, tout ça. » Et ces deux enjeux-là qui, en apparence, semblaient totalement opposés, en fait, venaient de la même racine. C'est qu'ils n'avaient pas réellement compris leur identité. Ils n'avaient pas réellement compris qui ils étaient en Christ. Est-ce que Jésus était venu accomplir et les bénéfices qu'ils pouvaient avoir en étant unis avec Jésus. Et pendant les deux premiers chapitres, il leur parle de leur identité. Et dans les deux autres chapitres, et c'est de cet extrait-là que je vous ai lu, la longue liste d'épiceries des comportements qu'ils devaient adopter. Ensuite, il leur dit comment ils doivent se comporter. Mais avant ça, il prend un temps d'insister. Pourtant, c'est à des chrétiens. Mais il prend le temps d'insister sur leur identité. Parce que Paul avait compris quelque chose. C'est que tant et aussi longtemps que tu ne comprends pas réellement qui tu es en Christ, tu ne connais pas réellement ton identité, ça va être impossible pour toi de porter le fruit que Dieu t'appelle à porter. Ça va être impossible pour toi d'avoir un changement concret et profond dans ton caractère et dans ta vie. Et c'est pourquoi mon premier point ce matin avec vous, c'est une identité à découvrir. Parce que ce qui détermine tes actions, ce sont tes croyances. Et si tu as les mauvaises croyances, ça va être impossible pour toi de porter du fruit. Quelqu'un a dit ceci, vos croyances deviennent vos pensées. Vos pensées deviennent vos actions deviennent vos habitudes deviennent vos valeurs et vos valeurs deviennent votre destinée. En d'autres termes, toute ta vie est basée sur tes croyances. Donc, t'es mieux d'avoir les bonnes. Et la réalité, c'est qu'on a tous cru des mensonges à un moment donné de notre vie. Et peut-être qu'en ce moment même, tu crois encore des mensonges. Par exemple, qui n'a jamais entendu sa mère lui dire « Hey, tu viens de manger avant d'aller te baigner, fais une sieste, sinon c'est dangereux. » Le nombre de siestes que j'ai fait dans ma vie pour avoir le droit d'aller me baigner, alors que scientifiquement, c'est faux. C'est totalement faux. Alors, si tu utilises cette technique-là pour amadouer tes enfants, repends-toi maintenant, s'il te plaît. Ou encore, qui n'a jamais entendu « bois de la soupe, ça va te faire grandir ». Le nombre de soupes que j'ai bu pour réaliser que ça ne marche pas, cette affaire-là. Et la réalité, c'est qu'on croit tous des mensonges. Et si croire ce genre de mensonge-là, ça n'a pas tant d'impact sur ma vie, au final, c'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai perdu, au final? J'ai perdu quelques heures de baignade et puis de boire de la soupe qui, finalement, est bonne sur ma santé. Mais la réalité, c'est qu'on peut croire des mensonges sur nous. On peut croire des mensonges sur Dieu qui ont beaucoup plus d'influence, qui ont beaucoup plus d'impact. On peut croire des mensonges, tu peux croire des mensonges en ce moment qui sont en train de te limiter dans l'impact, dans l'influence que Dieu t'appelle à avoir, qui sont en train de te voler ta joie, voler ta paix, voler le mariage prospère que Dieu a pour toi. Et c'est pour ça que c'est hyper important d'identifier ces mensonges-là. Et vous savez, les mensonges, c'est un peu comme les blagues. Les plus efficaces sont ceux qui contiennent une partie de vérité. Les mensonges les plus difficiles à discerner, les plus difficiles à identifier et le plus nuisibles pour notre âme et pour notre cœur sont ceux qui contiennent une partie de vérité et qui concernent notre identité. Le mensonge que tu es indigne, que tu ne seras jamais réellement capable de changer, que en ce moment, tes combats dans ce moment et tes défaites d'aujourd'hui vont être tes défaites de demain, que tu n'es pas digne de t'approcher de Dieu avec assurance. Il y a une partie de vérité là-dedans. Oui, nous étions comme ça, mais ce n'est pas toute la vérité. Indigne, absolument. Incapable de se changer par nous-mêmes, absolument. Mais aujourd'hui, parce que nous sommes enfants de Dieu, ce qui était vrai de nous avant ne l'est plus aujourd'hui. Paul nous le dira en Colossiens 1, versets 21-22. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés avec lui par le corps de sa chair, par sa mort, pour vous faire paraître devant lui saint, sans tache et irrépréhensible. Ce qui veut dire que nous ne sommes plus indignes parce qu'il nous a rendus dignes. Est-ce que je peux entendre un amen à ça? Et surtout que par la puissance du Saint-Esprit qui vit en nous, il nous a donné une nouvelle capacité de changer. Paul dira plus loin en Colossiens 3, verset 1, « Vous êtes ressuscités avec Christ. » Ce qui veut dire que tout ce qui est arrivé à Jésus, si tu es uni avec Jésus, tout ce qui est arrivé à Jésus, ça t'est arrivé à toi aussi. Sa mort représente la mort à ton ancienne vie et sa résurrection démontre à toi ta résurrection spirituelle. Puis vous avez remarqué le temps qu'il utilise. Il n'utilise pas le futur de plus tard, là, plus tard, lorsque tu seras dans l'éternité, là tu vas ressusciter. Non, non, non. Il dit, vous êtes ressuscité maintenant. Ce qui veut dire qu'en ce moment même, si tu as mis ta foi en Jésus, spirituellement, tu es déjà ressuscité avec lui. Ce qui veut dire que le péché n'a plus d'emprise sur toi. Ce qui veut dire que le péché ne te contrôle plus, il ne nous contrôle plus. Ce n'est plus nous, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et par son Saint-Esprit, il nous donne le pouvoir de faire ce qu'on était incapable de faire avant. C'est-à-dire dire non au péché. Résister aux tentations de nos vies. La même force qui a ressuscité Christ d'entre les morts, mais accessible aujourd'hui. Et il te donne la capacité de dire non aux mauvais comportements qui te détruisent. Il te donne la capacité de dire non aux mauvaises habitudes qui te nuisent à toi et aux personnes qui t'entourent. Et il te donne la capacité de dire oui aux œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi. Ça, c'est une réalité extraordinaire. C'est vraiment game changer. Et c'est pour ça que Paul insiste là-dessus pendant 2 chapitres. Parce qu'il sait que si tu comprends réellement l'autorité que tu as et la nouvelle capacité à changer et à transformer, à dire oui à la vie que Jésus a pour toi, si tu le comprends réellement, ta vie va être changée. Mais il ne faut pas juste le comprendre intellectuellement, il faut le croire. Parce que vous savez, il y a une différence entre savoir et croire. Tu peux savoir quelque chose sans croire que c'est vrai pour autant, sans être d'accord avec cette chose-là. Par exemple, moi je sais qu'il y a des gens qui pensent que la pizza hawaïenne est la meilleure pizza au monde. Je sais que ça existe, mais je n'y crois absolument pas. Je ne suis pas d'accord avec cela. Et s'il y en a qui sont dans celui qui, comme moi, savent et pensent que des ananas n'ont rien à faire sur une pizza, est-ce que je peux entendre un amen ? Une église remplie de maturité ce matin. Mais de la même manière, tu peux savoir que Dieu existe sans nécessairement croire tout ce qu'il dit. Il y a une différence entre croire en Dieu et croire Dieu. C'est possible pour toi de croire que Dieu existe, de croire en Dieu, sans nécessairement le croire lorsqu'il te dit qu'il est réellement le seul à pouvoir te combler, qu'il est le seul réellement à pouvoir satisfaire ton âme. Oh, tu peux croire en Dieu, tu peux croire que Dieu existe, sans nécessairement le croire lorsqu'il te dit qu'il t'aime comme la prunelle de ses yeux, et que malgré les difficultés que tu vis, malgré les épreuves que tu vis, il ne t'a pas abandonné, il ne t'abandonnera jamais parce que son amour pour toi est infiniment grand. Oh, tu peux croire en Dieu, sans nécessairement le croire lorsqu'il te dit que par la puissance du Saint-Esprit, tu as réellement la capacité de dire non au péché. Ma question pour toi ce matin, c'est, est-ce que tu crois seulement en Dieu ou est-ce que tu crois Dieu ? Lorsque tu deviens enfant de Dieu, toutes choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Ce qui était vrai de nous avant ne l'est plus aujourd'hui. 1 Corinthiens 10, 13 nous dit ceci, « Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. » Ce verset-là, on peut le voir de 2 manières. On peut le voir comme « Dieu, il est bon. » Il est bon, puis des fois il va y avoir des combats, des fois je vais céder, des fois je vais avoir la victoire, mais Dieu il est quand même bon. Ou alors, on peut le prendre littéralement, puis on peut réellement croire que ce que Dieu promet, là il va vraiment l'accomplir. On peut réellement croire que malgré les tentations qui vont venir, peu importe à quel point elles vont être fortes, Dieu il va toujours nous donner la capacité de nous en sortir et pourvoir un moyen de sortir de ça. On peut le croire réellement. Ce qui veut dire que ce verset-là nous dit qu'en fait, il y a des excuses qu'on ne peut plus avoir en tant qu'enfant de Dieu. On ne peut plus dire « Ah, mais c'était plus fort que moi. Ah, je voulais résister, mais c'était plus fort que moi. » Non, non, non. Par la puissance du Saint-Esprit, tu as la capacité de dire non. Est-ce que je peux entendre un amen, la prairie ? C'est tellement facile pour nous de perdre du terrain parce que nos limites passées et nos péchés passés sont devenus notre identité. Ah, je suis comme ça, je peux pas changer. C'est comme ça que je suis, je ne peux pas changer. De faire de nos faiblesses notre identité. Et cette identité-là peut même devenir une excuse pour ne plus changer. Moi, je connais des gens qui me disent, Thomas, moi, je ne suis vraiment pas quelqu'un du matin. Le matin, il ne faut vraiment pas venir me parler, je vais être désagréable avec toi et c'est juste parce que je ne suis pas du matin. Et si tu viens me parler avant que j'ai pris mon café, oublie ça, c'est encore pire. Et à chaque fois que je parle à ces personnes-là qui sont bêtes avec moi, c'est comme s'ils se justifient, ils disent, mais je t'ai dit que je n'étais pas du matin. Et à chaque fois, j'ai la même réaction de me dire, ok, je comprends que pour toi, c'est difficile de te lever le matin, mais ça ne te donne pas l'obligation d'être bête avec tout le monde. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais vous voyez ce qu'on fait ? On prend une faiblesse. Le matin, là, quand je me lève, j'ai tendance à être de mauvaise humeur. On en fait notre identité. Moi, je ne suis pas une personne du matin. Et on en fait une excuse pour ne plus changer et pour rester dans des comportements. Ouais, je suis désagréable avec toi, mais je t'ai prévenu. Hein, je t'ai dit que j'allais être bête avec toi si tu venais me parler le matin. Et la réalité, c'est que ça, on le fait pour le matin, mais on peut le faire dans tous les domaines de notre vie. Il y en a, tu dis, ouais. Moi, là, Dieu, il m'a fait comme ça. Moi, j'ai le sang chaud. Moi, j'ai un caractère, là, j'ai le sang chaud. Je démarre au quart de tour. Tu sais, il y en a, ils sont dociles, tout ça. Non, non. Moi, si tu me cherches, tu vas me trouver. Ah, Dieu, il m'a fait comme ça. Hein. Je m'énerve rapidement. Qu'est-ce que tu veux ? Je suis comme ça. Je ne peux pas changer. Il y en a d'autres, tu dis, ah, moi, je suis pas quelqu'un de prière. Moi, j'essaie de prier dans le passé, de mettre une alarme, comme les pasteurs ils disent, de se lever à 7 heures, de prier. Mais moi, quand je prie comme ça, là, déjà, là, une fois sur deux, je snooze, puis je le fais pas. Puis quand je le fais, je suis trop fatigué, ou alors je pense à mon épicerie en même temps. Donc, je suis pas tant une personne de prière, ce qui fait que moi, je prie à l'église, et puis ça s'arrête là. Il y en a d'autres, tu dis, moi, je suis pas trop une personne de la lecture, de la parole. Tu sais, Thomas, j'ai pas trop fait de longues études, je suis pas quelqu'un de plus manuel, tout ça. Donc, moi, la parole de Dieu, je l'entends le dimanche matin lorsqu'elle est prêchée, mais de moi-même, vraiment, lire la Bible, c'est pas trop pour moi. On fait de nos faiblesses notre identité, puis on reste là-dedans, et parce qu'on croit ces mensonges-là, que c'est notre identité, qu'on peut plus changer, ben on est limité. On est limité dans ce que Dieu veut faire dans nos vies, on est limité dans la liberté que Dieu aimerait qu'on puisse expérimenter. Et ce matin, ma prière pour toi, c'est que Dieu puisse mettre en lumière les mensonges identitaires que tu crois dans ta vie qui te limitent, parce que Dieu a infiniment plus pour toi. Est-ce que je peux entendre un amen, la prairie? La puissance du Saint-Esprit qui vit en nous, grâce à la puissance du Saint-Esprit qui vit en nous, on n'a plus besoin de se trouver des excuses parce qu'on peut réellement changer. On peut réellement être façonné par Dieu jour après jour. Ça peut tellement être facile pour nous d'être manipulé, limité par des mensonges qu'on croit à notre sujet. Puis moi, ça je l'ai vécu là. Moi, ce que je vous prêche là, c'est ma vie. Il y a à peu près un mois, je me souviens que je rentrais du travail et j'étais vraiment frustré. Le genre de soirée où j'étais vraiment, vraiment frustré, j'étais énervé par toutes sortes de choses. Et c'était un mélange de frustration et d'anxiété. Il y avait tellement de choses latentes que je ne savais même pas c'était quoi la raison pour laquelle j'étais frustré. Puis heureusement que j'habite seul parce que j'aurais vraiment pas été une personne du soir, si vous voyez ce que je veux dire. J'étais vraiment, vraiment énervé. Et là, j'avais deux options. Soit aller regarder la télé et puis juste me changer les idées, soit aller dans la présence de Dieu, puis affronter. C'était quoi le problème avec moi? Et j'ai choisi la deuxième option. Et alors, je suis allé dans la présence de Dieu, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Okay, je n'ai pas envie de paraître plus spirituel que je ne le suis. Là, ce n'est vraiment pas tout le temps comme ça. Okay, moi aussi, ça m'arrive de prier puis de penser à mon épicerie. Okay, mais là, alors que je m'approche dans la présence de Dieu, Dieu est venu me montrer les raisons pour lesquelles j'étais anxieux, pour lesquelles j'étais frustré. Et m'a montré que ces raisons-là, en fait, c'était tout simplement que je croyais des mensonges sur moi-même, des mensonges sur Dieu. Et alors que ces mensonges-là ont été exposés, ils ont perdu toute puissance sur moi. Et la frustration et l'anxiété que je vivais, ça a laissé place à une paix, à une joie. Et au lieu de passer une soirée remplie de colère, j'ai commencé à mettre de la louange, à adorer Dieu, rempli dans la reconnaissance, dans la joie, parce que je savais que Dieu était en train d'intervenir dans ma situation. J'aimerais vous dire que Dieu a une liberté, a infiniment plus. Et Dieu veut révéler ce matin, puis c'est ma prière ce matin. Dieu veut révéler, veut te révéler, veut te montrer qu'il y a des choses que tu crois en ce moment sur toi et sur lui qui te limitent. Dans ce monde de confusion, il est primordial pour nous de discerner le vrai du faux. Et le meilleur moyen de discerner le vrai du faux, c'est de regarder à la parole de Dieu. Vous connaissez sûrement cette anecdote avec la multiplication des faux billets, des fausses devises. Les banquiers et les personnes qui travaillent aux caisses ont dû apprendre à discerner c'était quoi les faux billets et les vrais billets. Et leur technique n'a jamais été d'aller étudier toutes les fausses devises, toutes les faux billets. Ça c'est les contrefaçons d'Afrique, ça c'est les contrefaçons d'Asie. Non, non, non. Leur technique, ça a toujours été d'étudier à fond quel était le vrai billet. La couleur, la texture, ce qui fait que dès qu'il y avait un faux billet qui s'immisçait, à chaque fois, ils le remarquaient directement. Et ça, c'est notre objectif en tant que chrétien. Qu'on soit tellement imprégné de la parole de Dieu, tellement imprégné de ce que Dieu dit à son sujet, de ce que Dieu dit à notre sujet, que dès que la culture veut essayer de semer des mensonges, que dès que l'ennemi veut essayer de semer des mensonges, on puisse directement le détecter et de dire non, 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 la texture, elle est pas bonne là. Parce que je sais ce que Dieu dit à mon sujet, je sais ce que Dieu dit à son sujet, je suis enfant de Dieu et je lui appartiens. Ce n'est pas parce que tu n'es pas que tu ne peux pas devenir. Ce que tu penses de toi là ne doit pas être déterminé par ton expérience passée, mais parce que Dieu dit de toi. Mais ce qu'il y a de plus important que tes actions et tes comportements, c'est tes croyances. Avant de pouvoir changer, il faut premièrement que tu crois qu'il est possible que je change. Il y en a, tu es dans ce lieu et tu combats avec les mêmes choses année après année. Et en ce moment, tu as abandonné, tu crois plus que c'est possible pour toi de changer. Ce matin, je prie que le Saint-Esprit puisse te révéler à nouveau que pour toi, il est possible de changer. Mais pour que tu changes, il faut que tu crois premièrement qu'il est possible de changer. Mais par contre, le fait que nous ayons une nouvelle identité, que nous puissions résister à notre ancienne nature, ne veut pas dire que ce sera facile. Et c'est mon deuxième point ce matin. Un combat à mener. Parce que le Saint-Esprit que nous avons reçu n'est qu'un dépôt, c'est qu'un acompte. Et tant et aussi longtemps qu'on sera sur cette terre, il y aura un combat. Paul le dit en Colossiens 3, verset 4, il dit ceci. le jour où Christ apparaîtra, lui qui est votre vie, alors vous paraîtrez vous aussi avec lui en partageant sa gloire. Même si nous sommes déjà ressuscités spirituellement, notre résurrection complète est encore à venir. Paul développera un peu plus sur ce sujet en Romains 8, verset 23, il dira ceci. Nous aussi, nous soupirons au plus profond de nous-mêmes et nous vivons dans une certaine tension, car nous avons seulement reçu l'Esprit divin comme un acompte. Ce cadeau de bienvenue offert par Dieu nous donne un avant-goût de la gloire future. Aussi, attendons-nous avec patience à être établis de plein droit fils adoptifs de Dieu. Cette condition de vrai fils entraînera aussi pour nous la libération totale et la transformation de notre cœur, de notre corps. Si le Saint-Esprit qui nous est donné est une bénédiction infinie, il ne constitue qu'un acompte, qu'un avant-goût. Et c'est pour ça que, bien que tu sois né de nouveau, tu combats encore avec le péché. Il y a des fights, mais je pensais qu'on avait la capacité de dire non. Mais il y a encore des combats parce qu'on est encore dans un corps de chair. Et il y a quand même encore un combat entre notre nouveau cœur qu'on a reçu, qui a des désirs qui sont alignés avec celui de Dieu, et on a encore notre corps qui, lui, a des désirs charnels opposés au cœur de Dieu. Et si le fait de connaître notre identité en Christ nous enlève la possibilité de trouver des excuses, elle ne nous enlève pas par contre le devoir de combattre. Et ça, moi, j'ai mis longtemps à le comprendre. Parce que pendant longtemps dans ma vie chrétienne, j'étais tellement désespéré par mon manque de progrès spirituel, par le manque de changement dans mon caractère, que je me mettais à douter de mon salut. Je me mettais à douter de mon salut parce que je me disais, Thomas, honnêtement, là, la Bible, les prédicateurs, ils disent que Dieu, lorsque tu mets ta foi en lui, il te donne un cœur nouveau. Il change tes affections. Il te fait aimer ce que lui aime. Il te fait haïr ce que lui haït. Mais regarde ta vie, Thomas. Tu es toujours aussi tenté par les mêmes affaires. Tu es toujours aussi tenté par le péché. Tu es toujours aussi impatient. Si tu avais vraiment reçu un nouveau cœur par Dieu, là, ton cœur, il serait différent, là. Et non seulement ça, mais en plus, regarde ta vie spirituelle. Tu es obligé de te mettre une discipline pour prier. La moitié du temps, ça ne te tente pas d'aller dans la présence de Dieu pour prier. Tant de fois, il faut que tu te forces à lire la Bible. Si tu avais vraiment reçu un cœur nouveau, là, ces choses-là, ça serait un délice. Tu aurais un désir naturel d'aller dans la présence de Dieu à tous les jours. Et parfois même, dans mes pires moments, je doutais même de l'existence de Dieu. Parce que je me disais, mais Thomas, il me semble que tu es sincère quand même. Tu es sincère dans ta foi, tu veux vraiment chercher Dieu. Et si l'œuvre du Saint-Esprit n'est pas manifeste dans ton caractère et dans ton cœur, c'est peut-être parce que Dieu n'existe pas. J'avais la fausse pensée que tout était censé venir naturellement, qu'alors que je mettais ma foi en Jésus, tout allait venir naturellement. J'entendais les prédicateurs qui disaient « C'est pas par tes propres forces, c'est pas par tes efforts, c'est Dieu qui change ton cœur. » Je me disais « Incroyable, c'est magnifique, j'ai pas besoin d'efforts à faire, Dieu va changer mon cœur naturellement, il va me faire aimer ce que lui aime, il va me faire haïr ce que lui haït naturellement, ça va être incroyable. » Mais vous voyez ce que j'ai fait encore? J'ai pris une vérité et j'en ai fait une semi-vérité. Comprenez-moi bien. Il y a juste Dieu qui peut changer notre cœur, ça c'est sûr. Il y a juste Dieu qui peut changer notre cœur. On ne peut pas changer notre cœur par nos efforts et par notre discipline. Mais par contre, pour que Dieu change notre cœur à tous les jours, nous renouvelle jour en jour, ça prend l'effort et la discipline d'aller dans sa présence et lui donner l'opportunité de le faire par contre. Et ça c'est une nuance que j'ai mis longtemps à comprendre, que ça prend de la discipline. Vous savez, l'évangile n'est pas en opposition aux efforts. L'évangile est en opposition au mérite. Si on est sauvé seulement par la foi, c'est pas par nos efforts, c'est pas par nos œuvres qu'on est sauvé, c'est par notre foi. Par contre, notre sanctification va demander des efforts parce que c'est un partenariat avec Dieu. L'apôtre Paul qui est l'apôtre de la grâce. Il n'y a personne qui a prêché plus la grâce que lui. Vous êtes sauvés par la foi et non par les œuvres. Il n'y a personne qui a prêché mieux la grâce que Paul. Ce même apôtre Paul-là dira, moi je traite durement mon corps. Efforcez-vous d'être en paix les uns avec les autres. Et c'est un partenariat que Dieu veut avoir avec nous. Ce qui veut dire que dans nos saisons de sécheresse, dans nos saisons de sécheresse spirituellement, on a l'impression que l'œuvre du Saint-Esprit en nous là n'est pas tant manifeste. La question à se poser bien souvent, c'est pas est-ce que Dieu m'a vraiment donné un cœur nouveau, mais qu'est-ce que je fais avec le cœur nouveau que Dieu m'a donné? Comment est-ce que je le traite? Comment est-ce que j'en prends soin? Est-ce que je le nourris ou est-ce que je ne le garde pas? Un peu comme cette histoire que j'aime bien raconter, c'est l'histoire d'un multimillionnaire, un homme hyper prospère qui a réussi en affaires et qui vivait dans un luxe et dans un confort extrême. Il y a une photo qui va apparaître de sa maison, une villa extraordinaire avec une piscine. Lui, il n'y a jamais de neige, il n'y a jamais de slush là où il vit. Une maison extraordinaire. Le gars, il a un garage. C'est même pas un garage, c'est un concessionnaire. Toutes les dernières voitures, les Ferrari, Maserati, tout ce qui finit en I et pas en Toyota. Okay, il a toutes les plus belles voitures au monde. Il a tout. Mais sauf que cette richesse-là a commencé à agacer son voisinage. Ça a commencé à agacer son voisinage et il y a une personne en particulier qui a commencé à le menacer. Elle a commencé à lui dire, ouais, toi, t'exposes trop ta richesse. Un jour, je vais rentrer chez toi, je vais tout voler, je vais tout détruire, et tu vas voir, ce que je vais pas voler, je vais le détruire, et tu vas être dans rien de bon. Et cet homme-là, là, il était connu pour être quelqu'un d'extrêmement méchant et extrêmement mauvais. C'était quelqu'un qui était ni du matin, ni de l'après-midi, ni du soir. Le gars, il était vraiment tout le temps énervé. Et tu savais que lorsque ce gars-là te menaçait, c'est sûr et certain qu'il allait passer à l'action. Donc, là, on pourrait s'attendre à ce que l'homme riche utilise sa richesse pour protéger sa maison, qu'il fasse installer un système d'alarme, qu'il puisse appeler une patrouille qui fait des tours, qu'il puisse fermer à clé à chaque fois, tout ça. Mais contre toute attente, le riche est plus laxiste que jamais. Il a reçu la menace, mais le gars, il va au travail, il ne ferme même pas son portail, il laisse les fenêtres ouvertes, pas de système d'alarme, il avertit pas la police, tout ça. Et ce qui devait arriver arriva. L'homme qui était hyper méchant rentre chez lui, vole tout et détruit tout. Et là, on a envie de regarder l'homme riche et de lui dire « Mais tu t'attendais à quoi ? C'est sûr et certain qu'il allait tout voler. » Et aussi absurde que ça puisse paraître, j'aimerais vous dire que c'est la même chose quand nous, en tant que chrétiens, on ne protège pas notre cœur. Parce que qu'est-ce que nous dit la parole ? La parole de Dieu nous dit qu'il y a un ennemi qui est là et qui rôde, qui veut détruire, voler et tuer. Et cet ennemi-là, il n'est ni du matin, ni de l'après-midi, ni du soir. Cet ennemi-là, il est là pour voler ta joie, voler ta paix, voler ton mariage, voler ton impact, voler ton influence. Et le pire dans cette situation-là, c'est que parfois, le pire ennemi, ce n'est même pas l'ennemi de nos âmes, c'est nous-mêmes, à cause des décisions qu'on prend. Et c'est pour ça qu'on est dans un combat. Il faut qu'on réalise qu'on est dans un combat et qu'on protège notre cœur. C'est pour ça que Proverbe 4, 23 nous dira ceci. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Si c'est de notre cœur que viennent les sources de la vie, nous devons être extrêmement vigilants à ce qu'on y laisse entrer. Et le problème avec ce verset-là, c'est qu'on le connaît tous. C'est un des versets les plus populaires, c'est un des versets même les plus instagrammables qui passe bien sous une photo de profil, tout ça. Mais bien que ça soit un des versets les plus populaires, c'est un des versets les moins appliqués. C'est un des versets les moins pris au sérieux. Dans une génération où on n'a jamais été autant diverti par des divertissements anti-bibliques qui sèment en nous des pensées qui détruisent notre intimité avec Dieu, qui nous volent l'intimité que Dieu aimerait avoir avec nous. On ne surestimera jamais l'impact de ce vers quoi on tourne nos regards, notre attention, de ce qu'on regarde, de ce qu'on écoute, les conversations qu'on entretient. L'influence que ça a sur l'état de notre cœur et de notre âme. Et comme on vient de voir, la santé de notre cœur est capitale. C'est un cœur tout nouveau que Dieu nous a donné. Et on vit dans un monde où il y a encore, si on est débarrassé du pouvoir du péché, on peut lui résister. On n'est pas encore débarrassé de l'influence du péché. Il faut qu'on protège notre cœur. Jésus dira lui-même ceci en Matthieu 15, verset 19. « Car c'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées, qui mènent au meurtre, à l'adultère, à l'immoralité, au vol, au faux témoignage, au blasphème. Tous les comportements qu'on a dans nos vies, que tu as dans ta vie, que tu as envie de changer, que tu as envie de passer à un autre niveau, ils proviennent de ton cœur. » C'est pourquoi l'objectif numéro un de Dieu ce matin, ce n'est pas de changer tes comportements, c'est de changer ton cœur, de changer tes affections. Parce que alors qu'il change ton cœur, le comportement va suivre. Et la réalité, c'est qu'on fait toujours ce qu'on veut le plus. C'est pour ça que Dieu, au lieu de changer juste nos habitudes, nos comportements, il veut changer notre volonté. Qu'on se mette à aimer et à désirer ce que lui désire. Et la solution pour ça nous est donnée en Colossiens 3, verset 1, et c'est mon dernier point de la matinée, c'est de s'affectionner aux choses d'en haut. Mon troisième point, c'est un émerveillement à retrouver. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses qui sont en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses qui sont en haut et non à celles qui sont sur la terre. Ce qu'il nous dit, c'est vous qui êtes déjà ressuscité spirituellement, mais qui devez encore vivre avec des réalités terrestres. Ce qu'il faut absolument que vous fassiez pour expérimenter réellement la vie que Dieu a pour vous, les changements, le fruit de l'esprit que Dieu a pour vous, c'est qu'il faut que vous centrez vos pensées sur les réalités d'en haut et non sur les réalités d'en bas. Les réalités d'en haut, qu'est-ce que c'est ? Les réalités du ciel, c'est que si tu as mis ta vie, ta foi en Jésus, la fin de ce monde n'est pas la fin pour toi. Est-ce que je peux entendre un amen à ça ? C'est pas la fin pour toi, c'est le début en fait. C'est le début parce qu'il y a une vie qui t'attend dans un monde sans souffrance, sans maladie, sans injustice. Toutes les douleurs que tu vis là, on sera débarrassé de ça, puis on pourra vivre avec Dieu dans un monde rempli de joie, d'amour, de fête, de rire. Un monde qui sera tellement extraordinaire, qui fera paraître tous tes plaisirs et joies expérimentées dans ce monde comme étant dérisoires. Un monde où on pourra voir Dieu face à face, sans filtre, juste cœur à cœur avec lui. Question pour toi. C'est quand la dernière fois que tu as pensé avec anticipation au ciel ? Puis je te parle pas du dimanche soir où tu regardes ta semaine à la job, tu dis « Oh, j'ai vraiment une dure semaine qui m'attend, Seigneur, reviens maintenant. » Non, non. Je te parle de moments où tu te dis « Eh, j'ai une femme, j'ai un époux que j'aime, j'ai des enfants, j'ai des rêves, mais qu'est-ce que j'ai hâte de voir Jésus ? » qu'est-ce que j'ai hâte d'être avec lui, cœur à cœur. C'est tellement le trésor de ma vie. C'est tellement la joie de ma vie. J'ai tellement hâte de le voir face à face. L'apôtre Paul, il nous dit, pensez à ces choses-là. Émerveillez-vous de ces choses-là. Mais les réalités d'en haut, ce n'est pas juste ça. Les réalités d'en haut, c'est comment on a accès à ces réalités-là. C'est de réaliser qu'on a accès à cette éternité-là, pas par nos mérites, mais par les mérites de Jésus. Que alors qu'on allait vers lui par des offenses, il a répondu à nos offenses par de la grâce, par de l'amour, par du pardon. C'est de réaliser que parce qu'on appartient à Dieu, même les pires circonstances de notre vie, parce qu'on lui appartient, il est capable de les faire tourner à notre avantage pour sa gloire. C'est de réaliser qu'on est tellement proche de lui, tellement privilégié qu'il veut se servir de nous pour faire avancer son royaume, avancer une cause qui est éternelle, une cause qui nous dépasse, se servir de nous. Il nous donne des dons et des talents pour se servir de nous. Le créateur de l'univers, du ciel et de la terre te voit, toi, et te dit, on va être partenaire dans mon royaume. C'est un privilège extraordinaire. L'apôtre Paul nous dit, émerveillez-vous de ces choses-là. Émerveillez-vous de ces choses-là beaucoup plus que vous émerveillez des réalités de la terre, des accomplissements, de ta promotion au travail. Émerveillez-vous beaucoup plus de ces choses-là. Ma question pour toi, c'est, es-tu encore émerveillé? Es-tu encore émerveillé par la grandeur du salut que Dieu t'offre? Es-tu encore émerveillé par l'intimité qu'il t'offre? Es-tu encore émerveillé par la grandeur de son pardon, de son amour, de sa grâce envers toi? Es-tu encore émerveillé par le fait qu'il veut se servir de toi pour faire avancer son royaume? Es-tu encore émerveillé? J'ai une confession à vous faire. Moi, vous savez, moi, je suis ce qu'on appelle un church kid, ce qui fait que j'ai grandi à l'église et des messages, j'en ai écouté des milliers. Et plusieurs de ces messages-là, j'entendais des prédicateurs comme moi et qui étaient là et qui prêchaient comme ça. « Es-tu encore émerveillé par l'amour de Dieu ? Es-tu encore émerveillé par sa grâce ? Es-tu encore émerveillé par son pardon ?» Et je me souviens que dans ces moments-là, souvent, j'étais assis à ma place, rempli de honte, rempli de culpabilité, parce que si j'étais honnête, la réponse à cette question-là, c'était pasteur là, est-ce que je suis encore émerveillé? Pas vraiment. Si je suis honnête là, pas vraiment. Puis parfois c'était parce que j'avais laissé du compromis dans ma vie, puis j'étais apathique spirituellement. Et vous savez que lorsque tu as un pied dans le monde, un pied dans la présence de Dieu, bah, ton affection pour les choses spirituelles, elle commence à diminuer de plus en plus. Puis prier et lire ta Bible, ça devient de moins en moins attirant. Puis parfois c'est à cause de ça. Parfois c'est à cause de souffrances que je vivais. Je vivais dans des souffrances, je vivais des périodes de difficultés, puis je disais, hey, pasteur là, si je suis honnête avec toi là, ce qu'il y a dans ma tête en ce moment, c'est beaucoup plus hey, « Dieu, t'es où ?» plutôt que « Merci pour ta grandeur, merci pour ta bonté. » Et je me souviens que j'entendais ces messages-là et il y avait un petit côté de frustration même. Parce qu'il y avait un côté de « Je me dis, ok, es-tu encore émerveillé ? Ok, c'est bon. Tu viens de montrer à tout le monde que je suis un mauvais chrétien, que je ne suis pas émerveillé. Maintenant, on fait quoi ? Je ne suis pas émerveillé. Qu'est-ce que je fais ? Je ne peux pas me forcer à être émerveillé. Thomas, qu'est-ce que tu fais ? Je suis en train d'essayer de m'émerveiller à Dieu. Ça ne marche pas comme ça. L'émerveillement, ce n'est pas quelque chose que tu fais. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Avec le temps, j'ai découvert quelque chose. Vous connaissez peut-être l'expression qui dit « Le cœur a ses raisons que la raison ignore » ou alors « Le cœur veut ce qu'il veut ». En gros, je ne peux pas me forcer à… Si j'aime quelque chose, je ne peux pas me forcer à ne pas l'aimer. C'est mon cœur qui décide. Si j'aime ça, bah, j'aime ça. Si je n'aime pas ça, je n'aime pas ça. Encore une fois, j'ai réalisé que cette expression-là, elle est fausse. Parce que ce que le cœur veut plus que toute autre chose, c'est de ce qu'il a été nourri. Ton cœur, en fait, fonctionne un peu comme ton feed Instagram ou Netflix. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur Netflix, plus tu regardes des films d'action, plus ils vont te proposer des films d'action. Plus tu laisses le contrôle de YouTube à tes enfants, plus ils vont te proposer des dessins animés. Et toutes les parents disent « Amen ». Pourquoi ? Parce que l'algorithme fonctionne comme ça. Il te nourrit toujours plus de ce que tu consommes pour que tu puisses rester là-dedans. Ton cœur fonctionne de la même manière. Ton cœur veut toujours plus de ce que tu le nourris. Toujours plus. Plus tu nourris ton cœur de quelque chose, plus tu le veux. Ce qui fait qu'en ce moment, ce que tu désires réellement dans ton cœur, c'est juste un reflet de comment tu nourris tes pensées. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dira ceci en Philippiens 4, versets 8 à 9. Nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange. Alors le Dieu qui donne la paix sera avec vous. Vous avez vu ce qu'il fait, Paul ? Il associe directement le fait de nourrir comme il faut ses pensées avec la présence de Dieu qu'on expérimente à tous les jours. Comment on nourrit nos pensées, ce qu'on regarde, ce qu'on écoute, les conversations qu'on entretient, toutes ces petites choses-là ont une incidence directe sur la présence de Dieu que tu expérimentes à tous les jours. Tu veux changer réellement ce matin ? Tu veux expérimenter des changements concrets et profonds ? Tu veux recommencer à être passionné par Dieu ? Change la manière dont tu nourris tes pensées. J'aime tellement ce que le pasteur John Piper a dit à ce sujet. Il a dit ceci, si vous ne ressentez pas de fort désir de manifestation de la gloire de Dieu, ce n'est pas parce que vous avez beaucoup bu et que vous êtes rassasié. C'est parce que vous avez grignoté si longtemps à la table du monde que votre âme est remplie de petites choses et qu'il n'y a plus de place pour les grandes. Dieu ne vous a pas créé pour cela. Il y a un appétit pour Dieu en vous. Il a seulement besoin d'être réveillé. Plus tu te nourris de choses spirituelles, plus tu vas désirer des choses spirituelles. Okay, je vous laisse avec une dernière expression. Vous connaissez l'expression qui dit « l'appétit vient en mangeant » ? Celle-là, elle est vraie. Et elle n'a jamais été plus vraie que dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, ceux qui ont le plus faim et soif de la présence de Dieu ne sont pas ceux qui se nourrissent le moins, sont ceux qui se nourrissent le plus. Ceux qui passent le plus de temps dans la prière, dans la présence de Dieu, ils veulent toujours plus prier. Ils veulent toujours plus passer du temps avec Dieu, à lire sa parole, à être dans sa présence. Et vous savez quoi? L'inverse est aussi vrai. Dans le royaume de Dieu, ceux qui ont le moins faim et soif de la présence de Dieu sont ceux qui se nourrissent le moins. L'as-tu remarqué? L'as-tu remarqué que moins tu lis ta Bible, moins tu as envie de la lire? Que moins tu pries, moins tu as envie de prier? Que moins tu viens à l'église, moins tu as envie de venir à l'église? Pourquoi? Parce que le cœur veut de ce qu'il a été nourri. C'est pour ça que les compagnies sont prêtes à dépenser des millions et des millions de dollars pour des publicités de seulement 30 secondes, parce qu'ils savent qu'une fois qu'ils ont semé l'idée dans la tête du consommateur, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cette même audience-là va leur apporter bien plus que ce qu'ils ont investi. Parce que le cœur veut de ce qu'il a été nourri. Et la bonne nouvelle pour toi ce matin, pour toi et moi, c'est que si en ce moment tu ne désires pas Dieu, si en ce moment tu te sens sec spirituellement, si en ce moment juste passer un temps avec Dieu c'est difficile, la tendance, elle peut être inversée. La tendance, elle peut être inversée. Et si en ce moment tu te sens sec spirituellement, premièrement, ne culpabilise pas. La pire chose que tu puisses faire, c'est culpabiliser. La culpabiliser, c'est un piège de l'ennemi pour t'éloigner encore plus de Dieu. Donc en ce moment, ne culpabilise pas, parce que ultimement, tu n'es pas responsable de ce que tu ressens. Par contre, tu es responsable de ce que tu fais avec ce que tu ressens. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu peux t'approcher de Dieu, tu peux t'approcher de lui et dire, Seigneur, en ce moment-là, mon âme, elle est faible. Mon âme, là, en ce moment, elle est engourdie spirituellement. En ce moment, juste m'arrêter chez moi, loin de l'église, tout ça, et passer du temps avec toi, c'est devenu difficile, mais je veux pas écouter mon âme, je veux parler à mon âme. Je veux dire, c'est mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme élève son nom, m'élève, mon âme adore-le parce qu'il est fidèle et juste. Même si en ce moment, les circonstances autour de moi ne me le montrent pas, Seigneur, je veux mettre mon espoir en toi, ma confiance en toi, je veux m'approcher de toi. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. La tendance peut être inversée. Il y a un émerveillement en toi qui dort en ce moment, qui a juste besoin d'être réveillé. Vous savez, la raison pour laquelle Paul, avant de donner la longue liste de comment on doit se comporter, la raison pour laquelle il nous dit « affectionne-toi aux choses d'en haut, regarde, sente tes yeux sur ce qui est en haut », la raison pour laquelle il nous dit ça avant de nous donner la longue liste de comment on doit se comporter, cette raison-là, c'est parce que Paul avait compris que notre capacité à obéir à Dieu dépend grandement de notre émerveillement face à tout ce qu'il a fait pour nous. Très compliqué de marcher dans les voies de Dieu, de marcher dans l'obéissance, de marcher dans, de mourir à nous-mêmes si on n'est pas émerveillé par Dieu, si on n'est pas émerveillé par son amour et par sa grandeur. Très, très compliqué. Et au contraire, beaucoup plus facile de pardonner ton prochain, de pardonner ton époux, ton épouse, tes enfants, lorsque tu es émerveillé par la grandeur du pardon de Dieu envers toi. Beaucoup plus facile d'être patient avec ton épouse et avec tes enfants qui cassent tout, lorsque tu es émerveillé par la patience de Dieu envers toi. Beaucoup plus facile d'aimer ton collègue qui n'est vraiment pas aimable à la job, lorsque tu es émerveillé par cet amour de Dieu envers toi, alors que lui était saint, toi, on est juste des pécheurs, mais malgré ça, son amour pour nous est infiniment grand. Notre capacité à obéir à Dieu dépend grandement de notre émerveillement face à tout ce qu'il a fait pour nous. Mais cet émerveillement-là, tu ne peux l'avoir si tes yeux sont fixés seulement sur les choses de ce monde. Et c'est pourquoi en terminant cette réunion, on va fixer nos yeux sur Jésus. Alors que l'équipe de louange va nous rejoindre, on va fixer nos yeux sur Jésus. On va dire, Seigneur, je veux juste fixer mes yeux sur toi. Je veux juste rappeler à mon âme à quel point tu es bon. Juste rappeler à mon âme à quel point tu es le seul qui peut me combler. Tu es le seul qui peut me satisfaire. Est-ce que je peux entendre un dernier grand amen, la prairie? Je vous invite à approcher vos têtes. Je vais prier. Puis ensuite, on va aller dans un temps de louange, puis d'introspection et d'adoration tous ensemble dans la présence de Dieu. Seigneur Jésus, on te remercie pour ta grâce. On te remercie pour ton amour, Seigneur Jésus. On te remercie de ce que tu nous as choisi, Seigneur Jésus. Malgré nos offenses, malgré nos imperfections, tu nous aimes, Seigneur Jésus. Et j'aimerais te prier pour toutes les personnes qui, dans ce lieu, en ce moment, se sentent sèches spirituellement. qui se sentent peut-être, qui passent par, peut-être par un moment de désert, Seigneur Dieu, je te prie de ranimer la flamme, Seigneur Dieu, de ranimer la passion dans leur cœur qui peut-être qu'ils ont perdu, Seigneur Jésus, que tu puisses renouveler leur foi, renouveler leur espoir, qu'ils peuvent réellement changer, qu'il y ait une liberté qu'ils peuvent expérimenter en toi, Seigneur Jésus. Je te prie pour ta faveur, Seigneur Jésus, je te prie de venir exposer tous les mensonges identitaires sur toi qu'ils croient, Seigneur Jésus, et qu'on croit, Seigneur Dieu, afin qu'on puisse avoir une vision juste de qui tu es, qu'on puisse avoir une vision juste de qui nous sommes en toi, qu'on puisse s'emparer de l'identité, de notre nouvelle identité que nous avons en Christ. Merci Seigneur de ce que tu es fidèle, tu entends nos promesses. Et merci Seigneur qu'il va y avoir un fruit surnaturel dans nos cœurs et dans nos caractères. C'est dans le nom de Jésus qu'on a prié et tout le monde dit Amen et Amen. Est-ce qu'on peut donner une ovation au roi des rois, au Seigneur des seigneurs ?